Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Nicolas Jamin.
L'after intégrale Coupe du Monde avec ce soir Daniel Riolo, Kevin Diaz, Sébastien Basson, notre invité international camerounais qui reste avec nous jusqu'à minuit, 2h du matin à Doha, minuit à Paris. Julien Laurence est également avec nous les gars. J'accueille aussi Hamza Rahmani. Salut Hamza.
Bonsoir à toutes et à tous.
Notre spécialiste du football africain qui est avec nous ce soir en studio en face de Kevin Diaz. Portugal donc. Ghana, victoire du Portugal 3-2. Ronaldo a marqué, Ronaldo a battu un nouveau record. C'est le seul homme désormais à avoir marqué dans 5 coupes du monde différents. 8 buts au total pour lui sur penalty. Il a ouvert le score, il avait pleuré lui aussi d'ailleurs lors de l'hymne national. Beaucoup d'émotions, il a vécu une année, c'est vrai, forte en émotions. Ronaldo, Nico Villas est avec nous. Bonsoir cher Nico.
Oh, la vive.
Salut Nico. Est-ce que t'as pleuré sur l'hymne ou pas toi?
Non, mais par contre j'ai fait un gros caca dans ma culotte dans les dernières minutes. Je te le cache pas, mais mon caca sur CR7 a pris cher. Je te le dis.
Je voudrais demander à Daniel. C'est bon, on peut parler de la Slessa ou pas? C'est bon, je peux parler.
Oui, mais ouais, là je vous laisse moi. Alors là. Okay. Alors là, okay. Maintenant vous allez parler du Portugal tous les deux, je vais vous laisser tranquille. Et tout à l'heure, quand il faudra de parler du Cameroun, je laisserai Hamza. Parce...
Ça, c'est pas gentil. C'est dur. On va appeler Walid.
Un jour, on parlera de Jorginho, des pénaltys, tout ça, Daniel, t'en fais pas.
Nico, tu parlais de Ronaldo à l'instant. Au Portugal, comment on juge son match ce soir?
Écoute, comme d'habitude, par le prisme des statistiques et des records, parce qu'il est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer sur 5 Coupes du Monde consécutives. Après, il y a quand même... Bon, déjà, c'était très divisé avant le match, le timing de sa fameuse interview, tous les doutes qu'il y avait par rapport à sa forme physique, le fait qu'il jouait très peu à Manchester United, qu'il marquait moins avec United. Bon, on garde le côté victoire, mais c'est plus la prestation générale finalement où il y a eu cette grosse frayeur, notamment en fin de match, qui est retenue. Et surtout, les explications de Fernando Santos, qui l'explique pas. Quand on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tu mènes 1-0, t'es tranquille, finalement tu te fais égaliser. Tu mènes 3-1 et puis tu t'effondres dans le dernier quart d'heure. Et lui dit, je sais pas l'expliquer, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, moi je trouve ça un peu inquiétant. Les changements sont pas forcément compris non plus sur ce match-là. Certains choix non plus. Alors il fait confiance à Joao Félix qui marque, mais qui a pas fait un bon match. Hein. C'est-à-dire il met son but, mais physiquement il était cuit. Pourquoi il le sort pas avant? Pourquoi il sort à Otavio, même s'il est pas bon, qui a quand même un joueur à vocation offensive, notamment dans son schéma, pour faire rentrer un William Carvalho? Et en plus, le fait est qu'il prend un but derrière. Enfin, il y a beaucoup d'interrogations. Le problème de Fernando Santos, c'est qu'il a le choix. Et donc forcément, quand t'as le choix, t'as plus de probabilité de te planter.
Bon, alors Nico Villas, il a fait le côté négatif, moi je vais faire le côté positif, je vais parler de ce qui s'est bien passé, parce que moi c'est ce que je disais avec Daniel et j'étais complètement d'accord avec lui après le match de l'équipe de France. Le premier match d'une Coupe du Monde, il y a un moment il faut le gagner. Voilà, la manière c'est bien, le Brésil a réussi à mettre la manière, mais le Brésil c'est le favori numéro 1, l'Espagne également, mais ils ont joué contre des plots, donc il y a un moment, faut pas oublier que le Portugal a joué contre une belle équipe. C'est Walid d'ailleurs qui disait que le Ghana pouvait être une belle surprise de cette compétition, ça je sais pas si je peux le suivre, mais en tout cas c'est quand même une équipe qui a des joueurs qui jouent à l'Ajax, qui jouent dans des grands club, qui joue à Arsenal, etc. Donc, il y a quand même de la qualité dans cette équipe.
Ils n'ont rien montré du tout en termes de jeu.
Je suis d'accord avec Nico.
Mais d'accord, les gars, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ont fait du Joga Bonito. Je suis en train de vous dire qu'à la place des Portugais...
Non, mais ce n'est pas Joga Bonito ni Mochito.
Les gars, ils sont solides. Ils sont costauds, ils sont en place. Ils ont voulu mettre le bus. Et quand une équipe de haut niveau avec des bons joueurs met le bus, c'est compliqué pour tout le monde. On l'a vu pour le Brésil. Donc, ça va être compliqué pour le Portugal, c'est clair. Le Portugal, c'est pas le favori numéro 1 de cette compétition. Maintenant, j'ai envie de vous parler quand même.
Ça devrait l'être, Kevin, si tu permets.
Favori numéro 1.
Au vu de la qualité de ses joueurs.
Non, mais j'ai dit favori.
Au vu de la qualité des joueurs, Portugal qui est rarement cité.
On va pas trop faire le coup de l'entraîneur.
Je te parle de la qualité des joueurs. Le Portugal, avec son réservoir 1-11 et le banc, le groupe. Cette équipe-là devrait être top 4, top 5, large.
Après Daniel on joue sur les mots, et même Santos, hein, parce que Santos, il a toujours tendance à dire on n'est pas les favoris pour les raisons que tu évoques d'ailleurs. Souvent, quand tu fais des sondages, même chez les autres sélectionneurs, ils n'ont pas tendance à citer au premier abord le Portugal. Lui, il dit on n'est pas favoris, mais on est candidat. Lui, il utilise ce mot-là. Donc en fait, c'est en gros, t'es un favori déguisé finalement.
Le problème, c'est qu'il ne fabrique pas de collectif. Et il y a des joueurs cette équipe. Il y a des joueurs dans cette équipe. Je pense à Bernardo Silva. Quand tu le vois avec le Portugal, c'est pas le mec de City. Quand tu vois Bruno Fernandes, tu te dis, même il joue pas bon comme il devrait jouer. Tous les mecs, en fait, dans cette équipe-là, tu les vois moins forts que ce que tu as l'habitude de les voir. Parce que c'est des mecs qui souvent ont besoin, hein, je reprends l'exemple typique de Bernardo Silva, c'est vraiment un mec qui, dans un collectif bien huilé, c'est une bombe, quoi. Il est fort, il est partout, il court. Là, t'as l'impression qu'il court deux fois moins vite, il fait deux fois moins de choses, il fait tout. Parce qu'il y a pas de collectif, c'est pas fabriqué, on sait pas comment ça joue. Ça pousse la balle, c'est une addition d'individualité, ça crée des occasions, ça met des beaux buts, parce que t'avais raison, Kevin, de mentionner, le but de Léao, qui est vraiment un geste de classe. Il y a eu,
lui va
par moment, des belles choses dans le jeu de cette équipe, mais globalement, t'es un peu déçu, tu regardes l'équipe comme ça, tu dis, t'es sans arrêt en train de te dire quand même, c'est pas vrai avec ces joueurs-là, ça devrait quand même faire mieux.
Ouais, ouais, je suis d'accord, Daniel, mais on connaît l'entraîneur, on sait que c'est pas Guardiola,
on sait que c'est un mec qui est
un peu limité. Voilà. Mais je trouve, comme tu dis, qu'il y a quand même un Léao qui va être décisif dans cette compétition, parce que petit à petit, il va prendre la place de João Félix, je pense. Il y a Bruno Fernandes qui a été bon, qui est très bon avec, Julien pourra nous en parler, mais je pense qu'il est très bon quand même depuis l'arrivée d'Eric Ten Hag. Il retrouve un très bon niveau. Bernardo Silva, on attend de trouver son poste, en effet.
Sur les gros matchs, il est jamais là, Kevin. On est souvent ici en bas. C'est la première fois là où il y a un match vraiment, il y avait eu les barrages, on en parlait tout à l'heure, mais c'était d'autres adversaires. C'est la première fois que je vois Bruno Fernandes. Je t'enlève le match amico face au Nigeria ou quoi, où je vois Fernandes qui est vraiment décisif dans un match important.
Avec Fernandes,
mais je suis pas dur.
Je
suis pas dur. C'est que c'est bien de stater,
moi,
de faire des passes des sur corner.
Mais
dans le jeu, il a rarement été aussi bon dans un gros match. Mais Manchester United, sélection confondue, hein, que ce soir par exemple.
Oui, mais attendez les gars, Manchester United, on parle toujours des gros matchs. Mais dans les autres matchs, là, les statistiques, vous les avez vu les statistiques?
C'est
là
ce que je te dis. Il y a pas que les stats qui comptent.
C'est deux buts, une passe décisive cette saison.
Non mais d'accord.
Une passe décisive pour Bruno Fernandes.
Tu les as, ces statistiques, depuis qu'il est à Manchester United?
Ouais, non, mais c'est surtout les 18 premiers mois où il avait été exceptionnel.
C'est un des joueurs les plus décisifs de l'histoire du club, les gars.
Oui, mais tu peux pas me dire que cette saison, il est en pleine forme, il est super fort.
J'ai dit sur les derniers matchs, je l'ai trouvé plutôt bon.
C'est vrai que paradoxalement, il est pas mal avec le Portugal sur les derniers matchs.
Bon, bref, mais bon.
Alors,
si vous considérez qu'il est pas bon cette saison,
mais tu sais que même Cancelo, parce qu'on l'a pas cité, Cancelo fait pas un bon match.
Cancelo, il est pas bon aujourd'hui.
Et ça avait été le cas sur d'autres matchs du Portugal aussi. Mais après,
on est d'accord qu'au-delà de vos stats, ce sont des mecs qu'on voit tout le temps meilleurs en club qu'en sélection. La plupart du temps. Cancelo, tous ces mecs-là.
En fait, si tu veux, ce qu'il y a de déstabilisant, c'est que il y a eu quand même des matchs du Portugal, même sur les derniers mois, qui ont été convaincants dans le jeu. Les barrages, par exemple. Alors, ok, tu me diras, c'était que la Turquie, c'était que la Macédoine. Ok.
Il y avait une grosse pression.
T'avais une grosse pression, c'était sur un match. Enfin, voilà. Ils ont vraiment été convaincants et bons. Je pense à des Danilo au milieu de terrain, des William Carvalho qui avaient été très bons aussi. Même Bernardo a eu des fulgurants sur certains matchs. Mais c'est vrai que globalement, et moi, je suis assez d'accord avec toi, Daniel, quand tu parles de Bernardo. Bernardo, pour moi, c'est le symbole de ça. C'est-à-dire, c'est le mec qui est censé prendre le relais du leadership technique de cette équipe quand Ronaldo sera plus là. Parce que ce jour-là arrivera. C'est la grosse star du Portugal derrière Ronaldo. Mais en équipe nationale, c'est exactement ce que tu disais, on ne sait pas comment le faire jouer. Là, il débute axial, position axiale, où il a été très bon en plus, hein, sur les derniers matchs avec le Portugal. Quand il enlève Otavio pour faire rentrer William, il le remet dans une position d'ailier. Mais c'est pas un ailier, Bernardo. Non, et ça l'a jamais été avec le Portugal. Conséquence, ça jouait tout le temps côté gauche. Et le Portugal l'a joué quasiment que dans ce couloir gauche. Les mecs en face, ils sont pas débiles. À un moment, ils comprennent le truc. Donc, ça bétonne, ça verrouille. Et le Portugal a galéré dans ce match-là.
Hamza, parle-nous du Ghana qui a égalisé, je le rappelle, qui était un partout pendant 5 minutes avant d'en prendre 2, João Félix et Raphaël Léao. Boukari qui marque, vous avez vu, il fait la célébration à la Ronaldo d'ailleurs.
Qui était un peu vénère d'ailleurs.
Ouais, célébration. Ouais, Ronaldo sur le banc, il y a un plan de coupe. Vas-y, Hamza.
Célébration à la 89e minute alors qu'il y a un but à remonter. Bon, je comprends pas trop le principe, mais enfin, bon, il est content, il y avait Cristiano Ronaldo, il a fait sa célébration. Bref, perso, j'étais très très déçu par ce qu'a proposé le Ghana, d'autant plus que. Depuis l'arrivée des nouveaux binationaux, des personnes qui ont découvert qu'ils avaient une nationalité ghanéenne ou la possibilité d'avoir une nationalité ghanéenne à quelques semaines de la Coupe du Monde. Je pense à beaucoup d'autres, mais je pense principalement effectivement à Iñaki Williams, après 10 ans avoir rejeté cette possibilité. On se retrouve dans une situation où Otto Addo, il a formé une équipe plutôt intéressante, plutôt cohérente. J'avais vu leur match amical il y a quelques jours face à la Suisse du côté d'Abu Dhabi, dans des conditions particulières, parce qu'il n'y avait pas de climatisation. Ça s'est joué, je crois, à 13 ou 14 heures. Les Suisses ont beaucoup souffert physiquement, mais ils avaient proposé quelque chose de plutôt cohérent. Et là, pour la première fois, quasiment depuis l'arrivée d'Otto Addo, je crois qu'il l'avait testé en Kirin Cup, en une compétition amicale au Japon en juin dernier, sur un bout de match, cette défense à 5, mais ils ont toujours joué à 4. Et là, effectivement, il y avait déjà une première surprise de voir ce 11 de départ avec la titularisation en plus du Clermontois, que moi j'aime beaucoup d'ailleurs à Clermont, Alidou Seydou, mais qui joue plutôt à Clermont dans une défense sur le côté droit de la défense à 3. Là, il s'est retrouvé latéral droit, qui est son poste de formation. Un joueur comme Tariq Lamptey, que l'on a vu à Brighton briller et que moi je trouve personnellement très bon, était remplaçant. Jordan Ayew, bon, il a fait une entrée catastrophique, on est bien d'accord, mais lui aussi c'était un choix fort de le mettre sur le banc. Voilà, il y avait quelques choix quand même forts de la part d'Otto Addo, mais j'ai été très très déçu par par l'ambition inexistante, par cette formation ghanéenne qui n'a rien proposé, qui s'est contentée de défendre pendant 70 minutes.
Ils ont trop respecté le Portugal presque.
Bah, je ne sais pas si c'est une histoire de respect, parce que même quand tu récupères le ballon, Kudus qui fait une première demi-heure assez compliquée où il perd pas mal de ballons, mais il n'y avait même pas l'intention de se projeter. Le nombre de longs ballons que l'on a vu en première période sur André Ayew, qui est un bon joueur de la tête, et sur Iñaki Williams, sauf qu'il perdait tous les duels face à Danilo et face à Ruben Dias, parce qu'il demandait que ça. Sur la première demi-heure, le Portugal a gagné tous ses duels aériens, 100%, c'est une vraie stat, 100% des duels aériens remportés.
Plus la possession, plus le...
Donc je comprends pas ce qu'a voulu faire Otto Addo, et moi ce qui me dérange, c'est que ce score de 3-2 et le scénario de la rencontre avec cette occasion d'Iñaki Williams, elle va peut-être donner raison à Otto Addo en se disant... Bon bah on a perdu finalement que
attends par ça un plus but. Le penalty, parce qu'il a beaucoup insisté là-dessus en fin de match, oui, aussi. En disant c'est un cadeau de l'arbitre.
Penalty, hein.
Voilà, il est
donc
voilà.
Au final,
alors après on peut revenir aussi sur est-ce que le but doit être refusé à Ronaldo avant, est-ce que vraiment il y a faute,
ça c'est autre chose aussi. Voilà.
Mais au final je crains, j'espère que le Ghana retrouvera une ambition dans le jeu lors
contre la Corée du Sud,
notamment face à la Corée du Sud.
Ce sera lundi prochain, Portugal-Uruguay.